BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est 19h, la deuxième heure de Good Evening Business, en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey, rebonsoir.
Ouais, bonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Bonsoir, on a des marchés qui ne semblent pas vouloir croire à une escalade du côté du Proche-Orient. La Bourse de Paris, on verra ça tout à l'heure, est en hausse ce soir. Ça se détend du côté du pétrole, du côté du gaz, on va voir ça dans un instant. Et puis on va largement reparler avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure, bien sûr.
Et oui, on parlera aussi d'Emmanuel Macron, très enthousiaste ce matin, à 100 jours des Jeux Olympiques. C'était sur BFM TV, avec un petit message passé au syndicat. Je cite, « J'ai confiance dans leur esprit de responsabilité ». On parlera aussi du gouvernement qui veut simplifier notre fiche de paye. Hein, c'est toujours ce souci de simplification administrative. Et puis, enfin, on dira un mot de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, dont les actionnaires vont devoir voter demain. Sa rémunération qui est assez colossale et qui fait tant débat.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qui sera avec nous pour parler de tout ça? Nathalie Janson va revenir. Jean-Marc Silvestre sera là, bien sûr. L'entrepreneur Léonidas Kalogiropoulos et l'économiste atterré Henri Sterdignac. Tout ça pour débattre dans la joie, la bonne humeur, l'allégresse.
On l'espère.
Jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Donc c'est la question, quelle forme va prendre la riposte d'Israël à l'attaque massive de drones et de missiles iraniens ce week-end? Benjamin Netanyahu a réussi à réunir une nouvelle fois son cabinet de guerre tout à l'heure. Bonsoir Igor Saïri, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Tel Aviv. Quelles sont les pistes qui sont sur la table, Igor?
Écoutez, il n'y en a pas une précise en réalité, car ce nouveau cabinet de guerre, le troisième depuis cette attaque massive iranienne, n'a pas donné de solution très précise. Et d'après la presse israélienne, une quatrième réunion serait prévue demain. En réalité, il n'est pas question de savoir s'il va y avoir riposte, mais plutôt de la question du tempo et de l'intensité de cette riposte. En réalité, il y a trois scénarios sur la table. Le premier scénario, c'est peut-être la solution la plus brutale et la plus risquée, car elle pourrait coûter la vie à des civils et elle pourrait engendrer une nouvelle riposte iranienne. Il s'agirait d'attaquer depuis le territoire israélien des infrastructures militaires iraniennes de type base navale ou base aérienne. Le deuxième scénario, ce serait plutôt de s'en prendre aux proxys. Ce sont les relais iraniens. On pense évidemment au Hezbollah dans le sud du Liban. On pense également aux milices chiites syriennes ou encore aux Houthis au Yémen qui sont par ailleurs très actifs dans la mer Rouge, notamment contre des bateaux israéliens. Et puis la troisième solution, c'est celle qui est préconisée, souhaitée par la communauté internationale, c'est de considérer qu'Israël a gagné avec sa réponse défensive contre l'Iran, puisqu'on le rappelle, d'après Tsahal, 99% des projectiles iraniens ont été interceptés par le système de défense israélien et par l'aide des alliés comme la Jordanie, la France, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis.
Merci beaucoup Igor Saïri, donc en direct de Tel Aviv pour BFM Business. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir.
On le disait, pour l'instant, ça ne s'emballe pas du côté des prix de l'énergie, ça s'est même un petit peu détendu du côté du pétrole. On est en dessous des $90 sur le baril de Brent ce soir. Peut-être parce qu'au fond, l'Iran n'est pas un acteur majeur sur l'ensemble de ces marchés, finalement, Mathieu. Hein.
Oui, ça s'est un petit peu emballé vendredi, effectivement. Et là, aujourd'hui, ça a été assez calme. D'abord, parce qu'il n'y a pas de menace directe de fermeture du détroit d'Ormuz, vous savez, qui ferme le golfe Persique, hein, et par lequel transite le pétrole venant du Koweït, d'Irak, d'Arabie Saoudite, et donc les premiers producteurs et d'Iran, évidemment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Iran ne menace pas de le fermer. Alors, il y a eu, effectivement, l'arrêt d'un pétrolier lié à Israël. Mais pour le moment, c'est contenu. Et puis, effectivement, sur le marché, en tout cas, de l'énergie, l'Iran reste le huitième producteur de pétrole. Hein, derrière, évidemment, les deux grands géants que sont les États-Unis et l'Arabie Saoudite, plutôt évidemment hostile à l'Iran. Donc, ces deux grands pays de l'OPEP, ces deux leaders, tiennent le marché. Et même une offensive forte, ou en tout cas une déstabilisation forte de l'Iran, en tout cas, ne prend pas le risque de faire bouger le marché. C'est un peu différent sur le marché du gaz. Vous savez que l'Iran est le troisième producteur de gaz au monde, derrière les États-Unis et la Russie. Mais ça n'impacte pas réellement les prix du gaz. D'abord parce qu'il y a des prix par région, en Asie, aux États-Unis, en Europe. Chaque région a finalement son producteur qui le tient. Et on reste sur, effectivement, les États-Unis et la Russie qui sont des grands pays producteurs. Et l'Iran consomme énormément pour sa consommation domestique, consomme énormément du gaz qu'elle produit. Donc là encore, peu d'impact du coup sur les autres pays. pays. Puis vous savez, depuis la crise, depuis la guerre en Ukraine et la crise énergétique liée à cela, le marché du gaz s'est beaucoup développé avec le GNL, le gaz naturel liquéfié. Oui. Et du coup, là, vous faites d'entrée d'autres acteurs mondiaux comme le Qatar et l'Australie. Donc, ce marché est beaucoup plus finalement diversifié qu'il ne l'était auparavant.
D'où la relative quiétude ce soir des marchés énergétiques depuis quelques heures. Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. L'autre question des prochaines heures, des prochains jours, c'est de savoir, en tout cas Israël l'a demandé hier soir aux Nations Unies, si de nouvelles sanctions internationales pourraient être prises contre l'Iran. Nouvelles sanctions en plus de toutes celles qui s'accumulent depuis déjà plus d'une quarantaine d'années. Astrée Olivier.
D'abord, l'embargo sur les armes. Un dispositif mis en place il y a 40 ans pour la première fois par les États-Unis. Il interdit la vente d'armes et d'équipements militaires lourds. L'année dernière, l'embargo a été renforcé après la découverte d'armes iraniennes utilisées par la Russie en Ukraine. Les pays de l'Union européenne n'ont donc plus le droit d'exporter des composants servant à la fabrication de drones. Le gel des avoirs de la Banque centrale iranienne est un second dispositif de sanctions. L'accès au réseau interbancaire international SWIFT leur est interdit et près de 2 milliards de dollars d'actifs iraniens sont bloqués, des mesures financières qui s'étendent aux personnes et entités responsables de violations des droits humains. Enfin, l'embargo occidental sur le pétrole iranien est un dispositif encore maintenu aujourd'hui. Il est élargi à plusieurs secteurs énergétiques, gaz naturel, produits pétrochimiques et même métaux précieux utilisés dans certains équipements navals. L'Iran qui s'appuie largement aujourd'hui sur la Russie et la Chine pour l'exportation de ses hydrocarbures.
Astrée Olivier, voilà pour ce dossier au Proche-Orient sur lequel on viendra bien sûr avec nos experts. Dans quelques minutes, 19h07, dans l'actualité, l'onde de choc chez Tesla. D'après l'agence Reuters, Tesla a annoncé en interne qu'il allait supprimer 10% de ses effectifs mondiaux. C'est Elon Musk lui-même qui l'écrit dans une note que nos confrères ont pu consulter. D'après le dernier rapport annuel, le groupe employait un peu plus de 140 000 personnes à travers le monde à la fin de l'année dernière. Les Américains, eux, appellent Samsung en renfort pour venir construire chez eux des usines de puces électroniques. L'administration Biden va offrir aux Coréens jusqu'à 6,4 milliards de dollars de subventions pour s'implanter au Texas, qui devrait créer 20 000 emplois par la même occasion. En France, le gouvernement qui cherche toujours des économies, il envisage clairement de supprimer la prime accordée en cas d'embauche, vous savez, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. C'est une prime qui peut aller jusqu'à 6 000 euros aujourd'hui. Et puis, on en parlait tout à l'heure, Assemblée Générale très attendue demain chez Stellantis. Les actionnaires vont devoir se prononcer pour ou contre la rémunération de Carlos Tavares, qui pourrait atteindre jusqu'à 3,6 millions d'euros sur 2023. Écoutez ce que disait ce matin le patron de Proxinvest, l'une des agences de conseil aux actionnaires qui clairement propose de dire non à cette rémunération. Écoutez Charles Pinel.
Faites attention, vous êtes responsable aussi de la cohésion au sein de votre société, et même un peu plus largement, vous êtes responsable aussi de la cohésion un peu du système capitaliste en quelque sorte. Ce sont des données qui sont publiques, qui sont tout le monde est au courant de ces montants, et à partir de là, c'est vraiment de la responsabilité des dirigeants de faire attention. Après, ça fait le boule de neige, et ensuite les gens disent oh là, on va pas parler de dirigeants, d'ailleurs, on va parler de patron, et ça donne l'image d'un patron qui gagne beaucoup d'argent comparé à ses employés. Donc c'est là où il est en responsabilité sociale.
Voilà, on parle de ça avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. Et puis écoutez, Donald Trump, tout à l'heure, juste avant le début de son procès à New York, vous savez qu'il est accusé d'avoir acheté le silence de l'ancienne actrice Stormy Daniels à quelques jours de l'élection de 2016. Donald Trump, qui arrivant à son procès, a fait du Donald Trump, finalement. Écoutez.
C'est une persécution contre moi. C'est honteux. C'est une persécution politique inédite, sans aucun précédent. Une affaire qui jamais n'aurait dû avoir lieu. C'est pour cela que je suis fier d'être ici. Je suis ici pour mon pays. Un pays en déchéance qui est régi par une clique qui ne sait pas manier le pouvoir. C'est une attaque contre moi. Je suis fier d'être ici. Merci.
Voilà, Donald Trump tout à l'heure à l'ouverture de son procès à New York, 19h10. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir, plus 0,43% pour le CAC 40, 8 45 points. Bonsoir, Aude Kersulec.
Bonsoir.
Il n'y a pas vraiment de tendance à New York en ce moment, Aude.
Non, c'est vrai, on avait ouvert dans le vert pourtant, et c'est vrai que ça va beaucoup moins bien qu'à l'ouverture. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne réagit pas à la géopolitique, hein, c'est vrai, aux événements du week-end à l'attaque de Téhéran, mais on a un indicateur économique sur l'économie américaine, les ventes au détail, qui est ressorti là encore plus vaillant que prévu, et du coup, eh bien, on a les taux obligataires qui montent en flèche, hein, 4,64% pour le 10 ans américain, le taux de 2 ans qui s'approche des 5%, forcément la tech en pâtit. On a le Nasdaq en ce moment qui est dans le rouge, hein, autour de moins 0,4%, avec quelques actions qui prennent franchement le bouillon. On a parlé de Tesla durant le journal avec cette coupe à venir, hein, de 10% des effectifs. On a Tesla qui baisse en ce moment de plus de 3%. On a aussi d'autres valeurs qui sont pas très en forme. Reddit, moins 5%. Salesforce aussi, moins 5,5%. En revanche, la période des publications qui commence, là, en ce moment, c'est les banques qui publient. Goldman Sachs, aujourd'hui, a battu les attentes, notamment grâce à une reprise dans sa banque d'investissement et ses activités de marché. Et là, l'action est en hausse de plus de 3%.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, avec nous sur BFM Business. 19h12, on vient avec nos experts dans un instant. Beaucoup de choses ce soir. Jusqu'à 20h, le Proche-Orient, l'enthousiasme d'Emmanuel Macron à 100 jours des Jeux Olympiques, Carlos Tavares devant ses actionnaires demain. Et puis tiens, ce grand débat franco-français, faut-il simplifier la feuille de paye? Oh, ça doit faire 25 ans qu'on en parle, mais Bruno Le Maire est sur le coup apparemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, on est reparti, 19h30. 15. Nos experts sont là jusqu'à 20h. Audrey Tcherkov est avec nous. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Et nos experts, Nathalie Janson qui reste avec nous. Rebonsoir Nathalie, professeure à Neoma Business School. Léonidas Kalogiropoulos qui est avec nous. Léonidas, bonsoir. PDG de Médiation et Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Jean-Marc Silvestre est avec nous. Jean-Marc, bonsoir. Éditorialiste Atlantico. Et Henri Sterdinger.
Bonsoir.
Bonsoir. Économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Alors c'est la grande question, on en parle depuis tout à l'heure. La situation va-t-elle de nouveau déraper au Proche-Orient? Est-ce qu'Israël va riposter à l'attaque de drones et de missiles iraniens ce week-end? Les marchés, pour l'instant, ne semblent pas croire à cette escalade. Vrai.
En effet, puisque le pétrole tourne autour des 90 dollars et les prix du gaz qui s'étaient emballés avant le week-end se sont détendus aujourd'hui. On écoute tout de suite ce que disait Thierry Brosse il y a quelques instants, spécialiste des questions énergétiques, et on en débat juste après.
Si on s'attaquait à la production pétrolière en Iran, oui, ça serait un game changer, mais on n'imagine pas Israël s'attaquer à cela. Et donc, pour le moment, les marchés sont bien approvisionnés. L'Iran, c'est 3 millions de barils par jour de production. Et rappelons que la capacité résiduelle inemployée au sein de l'OPEP, c'est de l'ordre de 3 millions de barils par jour. Donc, même si, dans le pire des scénarios, il y aurait un problème en Iran, on serait en capacité de remplacer ces volumes, mais à des prix très élevés. Le premier ordre, c'est la production effective de barils de pétrole. Et pour le moment, rien n'a été affecté.
Rien n'a été affecté, Thierry Brosse le dit. Effectivement, on lisait la Bourse de Paris en légère hausse, légère détente sur les prix du pétrole. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude finalement.
Non, en fait, c'est intéressant, parce que ce qu'on comprend finalement, c'est que les marchés avaient déjà quelque part intégré une réponse, une riposte potentielle à venir de l'Iran, ce qui explique la faible réaction des prix. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ni la guerre entre le Hamas et Israël, ni les attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge n'ont eu d'impact finalement sur les perspectives économiques mondiale. Donc, a priori, le débat est clos. Jean-Marc Silvestre.
Je pense qu'il était clos, oui, hier soir, pratiquement. J'ai fait mon papier, d'ailleurs, pour Atlantico, hier soir, pour ce matin. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de penser que les crises rendent intelligents. Enfin, c'est d'une facilité.
Ouais,
hein.
Ouais.
Mais les intérêts économiques, j'en suis convaincu, et ça, mes amis qui font de la géopolitique sont fous furieux quand je leur explique ça, mais les intérêts économiques offrent un meilleur rempart au risque de guerre mondiale, finalement. Parce que au dernier moment, il y a toujours des intérêts économiques qui sont en jeu. Là, vous avez l'Iran, vous avez bien vu, elle a fait le minimum syndical, je veux dire, parce qu'elle a testé le don
ça
de fer.
Cher, hein,
de
ça.
Oui, peut-être, mais ça lui aurait coûté beaucoup plus cher si elle avait tenté une vraie guerre avec des risques sur ses raffineries, c'est le premier producteur de pétrole, avec des risques tout ça. L'Arabie Saoudite, c'est qu'elle n'a pas moufté, au contraire, elle invite plutôt à modérer les choses. La Russie a invité invite plutôt à modérer les choses. L'Amérique aussi, tous ces pays finalement sont interconnectés grâce à la mondialisation.
Oui, enfin, juste pardon, avec, non mais d'accord, mais avec des intérêts économiques parfois qui divergent, ce qui explique aussi certaines guerres. Bah, pour Esterdignac.
Oui.
Ben, j'ai rien à dire, il n'y a pas de sujet, voilà. Ah, oui. Je veux dire, l'Iran a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire une mesure symbolique. Bon, que
donc c'est symbolique.
Que peut-on dire d'autre? Et
craignez
puis,
pas l'escalade, craignez pas
après,
l'escalade.
Après, tous les gens de Gaza, on s'en fout.
Non, non, personne.
C'est pas, ben oui, c'est pas un grand problème à l'échelle mondiale. Voilà, c'est tout.
Quand même. Donc, bah, alors, je pense que personne n'a dit ça et personne ne pense ça, surtout.
Je pense que beaucoup de pays arabes ne sont pas prêts à s'engager fortement derrière les Palestiniens et ne sont pas prêts à faire la guerre avec l'Occident.
Sauf qu'on voit quand même les États-Unis, premier soutien d'Israël, qui ont été très clairs sur le fait qu'ils ne soutiendraient pas une riposte à la riposte.
Oui, non, mais c'est le même sujet. C'est-à-dire, effectivement, ben, comme on vient de le dire, on n'ira pas plus loin.
Donc,
tout
pas
simplement,
d'escalade.
Parce que personne n'a intérêt. Dans les grands pays,
oui, enfin, j'aurais jamais dit ce que vous venez de dire avec les termes que vous avez choisis. Je trouve que ils sont un peu étonnants, mais en tout état de cause, il y a effectivement devant le fait de marcher au bord du précipice. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc Sylvestre. Quand on marche au bord du précipice, on finit par y réfléchir à deux fois sur chacun des pas.
Mais même Poutine.
Non, mais je suis d'accord.
Même les pays occidentaux qui sanctionnent Poutine, ça s'arrange pour fermer les yeux quand on détourne les sanctions de façon à pouvoir être
amélioré sur le pétrole globalement, mais, dans les prix du pétrole,
La réaction des pays arabes est une réaction très intéressante aussi,
oui.
Que l'on voit quand même que les choses ne sont pas du tout univoques au Moyen-Orient, et finalement tout le monde est en train de temporiser pour que les choses restent calmes. Oui. C'est intéressant parce qu'il y a un moment où les guerres mondiales se déclenchent quand quasiment tout le monde a une sorte d'envie d'y aller. Et là, il y a une véritable... lorsqu'on est au bord, eh bien, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de...
Alors, le risque aujourd'hui, c'est qu'il y ait des fous, comme en Iran, qui se foutent complètement de leur opinion publique, qui peuvent sacrifier la moitié de leur population.
Alors, parce il n'existe pas que en Iran.
L'opinion ne suit pas le régime.
Je ne crois pas. Le Qatar a tellement investi à New York, tellement investi à la Bourse de Paris, et tellement investi dans la mondialisation.
Oui, mais il y a beaucoup d'extrêmes aussi.
Ils ne peuvent pas se permettre de décorner le phénomène de mondialisation.
D'accord, mais ça ne les empêche pas de financer beaucoup le Hamas.
Oui, parce qu'ils ont une opinion publique aussi, et ils ont une image. Mais c'est très...
C'est le en même temps.
Donc la rue ne suit pas le régime.
Ce qui est grave dans l'affaire quand même de l'Iran, c'est que les ayatollahs, tous ces groupes-là ne sont pas suivis par l'opinion publique iranienne, parce qu'on connaît tous des Iraniens qui ont envie de vivre normalement, quoi, en fait. Hein, et ils peuvent à un moment donné, c'est bien pour ça qu'il faut surveiller l'état d'avancement de leur armement nucléaire.
Nathalie, est-ce qu'on peut s'imaginer que les sanctions qui existent aujourd'hui autour de l'Iran avec cet embargo occidental sur le pétrole, mais aussi sur l'ensemble des produits hydrocarbures, sur les armes, les sanctions financières, l'impossibilité d'utiliser le SWIFT, le système interbancaire, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que ça aille plus loin ou que ça reste globalement en l'état ?
Non, je pense que comme Jean-Marc l'a dit, en fait, pour le moment, on est dans une situation en fait, où tout le monde y trouve son compte, donc on n'a pas envie... Personne n'a envie que ça se dégrade.
Ça se bascule.
Et donc, on va rester, dans ce compromis international. Oui.
Un effet très, très dissuasif d'être au bord du précipice. Hein.
Oui, mais il y a aussi, je pense, moi aussi, je suis plutôt comme Jean-Marc, je pense que l'intérêt économique explique beaucoup des positionnements. Et ils ne sont pas fous. Enfin, je veux dire, à part les fous, effectivement, comme il vient d'être mentionné.
L'ayatollah Khamenei se foutait complètement.
Exactement. Il y a vraiment des vrais fous. Oui. Et là, effectivement, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas où ils vont aller, mais la majorité ne sont pas dupes et savent que pour pouvoir être aussi maintenu au pouvoir, il vaut mieux
un
statu quo.
Il y a une menace des armes israéliennes sur l'Iran, l'Iran n'ira pas plus loin. Imaginez. Et donc, sauf vraiment accident, ça va se calmer.
Imaginez l'angoisse à Bercy où Bruno Le Maire et ses équipes surveillent l'évolution du prix du pétrole. On a coutume de dire qu'un dollar de plus sur le pétrole, c'est un centime de plus à la pompe. Imaginez ce qui peut se passer. Donc, 15 jours, 3 semaines, ça va
très bien. Et puis le gaz aussi, Guillaume, parce que l'Iran n'est que le 8e producteur de pétrole. pétrole au monde, mais le troisième producteur de gaz.
Pour répondre à l'interrogation d'Audrey, est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser?
Oui.
Je pense que la ligne rouge à ne pas dépasser, c'est l'atteinte aux biens privés et aux personnes privées qui sont expatriées. Quand les Occidentaux se mettront à piquer les actifs des Russes ou à piquer les actifs des groupes terroristes, etc.,
pour de vrai,
à évacuer des universités américaines, françaises, les enfants de Poutine et des autres, ça, ce jour-là, il faudra commencer à s'en inquiéter.
Ah bah alors là, enfin, on a déjà mis en place un gel des avoirs.
Non, on n'a pas mis en place. On n'a pas mis en place le gel des avoirs.
Bon, non,
on a
commencé. Non, c'est modéré. C'est un début. Il est modéré. Il n'est pas aussi important.
Notamment les gels de toutes les réserves qui sont stockées à Amérique, ils ne sont pas gelés. Ils sont gelés. Ils sont gelés. Mais on peut utiliser les revenus, mais ils ne sont pas saisis.
Oui, saisis.
Voilà pour la situation au Proche-Orient qu'on continue dessus, bien sûr, comme sur la feu ici à BFM.
Je pense quand même que un effet à un moment donné sur les hydrocarbures et sur l'énergie.
Ouais.
Là, à ce moment-là, on a bien vu ce que pouvait avoir comme effet sur nos économies un impact inflationniste. Et là, c'est toute la politique qui vient d'être menée depuis 2 ans pour ralentir l'inflation.
Un dollar de plus, un centime de plus.
La peur que ça reparte et que la perspective de baisse des taux, parce que finalement la guerre contre l'inflation aurait été gagnée, ça, c'est une échéance qu'il faut qu'on surveille.
Vous flinguez votre baisse de taux, là, évidemment.
On flingue notre baisse de taux, malheureusement, parce que je ne
sais pas
que ça aurait beaucoup d'effet sur le cours du pétrole.
Il y a une autre information qu'on a oubliée, c'est la Chine. C'est la Chine.
On n'arrive pas à passer au prochain sujet.
La Chine ne veut surtout pas qu'on bloque le détroit d'Hormuz.
Non, mais l'Iran n'a pas non plus du tout intérêt à le bloquer. Qu'elle exporte son pétrole.
Ça n'est jamais arrivé. Bref, on ferme la parenthèse.
Allez, voilà, c'était pour le jour d'après concernant l'attaque iranienne en Israël. Aujourd'hui, c'est un autre jour important puisque nous sommes à 100 jours du début des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron était sur BFM TV et sur RMC ce matin pour l'occasion. Évidemment, la question a été posée d'éventuels mouvements de grève. Peuvent-ils perturber le bon déroulement de la compétition?
C'est une question qui fait sens parce que les préavis déposés par la CGT en fonction publique sont opérants à partir d'aujourd'hui, 15 avril. Emmanuel Macron ne veut pas y croire au fait que les Jeux puissent être perturbés par les grèves. Écoutez.
Je dis aux syndicats, on va tous être vigilants, mais on va montrer que la France sait accueillir un grand événement, se mobiliser, en étant exemplaire sur le plan du droit du travail, de la sécurité au travail, de la qualité au travail.
Donc il n'y aura pas de raison. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y aura pas de raison de faire grève, quoi.
Et donc, oui, à la trêve olympique.
Non, mais là, on parle de
prime. En matière sociale. Et donc, en vrai, la France, c'est une équipe, c'est une nation unie. Et donc, on est au rendez-vous de cette exemplarité. On va l'être jusqu'au dernier moment. Et moi, j'ai confiance dans les syndicats. Ils ont l'esprit de responsabilité. Ils seront à nos côtés.
Henri Sterdigny, attendez, pardon, parce que j'aimerais interroger Henri sur le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le but des syndicats, c'est pas de bloquer la France tout l'été, mais simplement d'obtenir des concessions d'ici au mois de juillet concernant les fonctionnaires qui vont être bloqués, c'est-à-dire plus de recrutement, des augmentations de salaire, des aménagements pour les gardes d'enfants? C'est de la négo toute classique.
Vous savez que les JO demandent une intense mobilisation d'un certain nombre de fonctionnaires, d'un certain nombre de personnes qu'on va embaucher pour des périodes limitées. Et donc, il est tout à fait normal que les syndicats disent il faut absolument avoir des compensations financières, on nous impose de travailler le dimanche, on veut de l'argent en compensation. Et donc, les syndicats jouent leur rôle. Il n'est pas dit jusqu'à présent que les syndicats lancent une grande grève. Une vraie grève revendicative à l'occasion des JO.
Non, mais le message dit pour l'instant, nos revendications n'ont pas été entendues par le gouvernement. Le compte n'y est pas. C'est ce que disent les syndicats aujourd'hui.
Oui, le compte n'y est jamais. Oui. Donc, je veux dire.
Vous avez remarqué aussi.
Imaginer de dire, on va faire grève parce qu'on veut les 20% de hausse des salaires des fonctionnaires qu'on nous a mangé depuis que l'indice des fonctionnaires est bloqué. Ça n'a pas été dit, donc qu'il puisse y avoir des grèves locales me paraît tout à fait normal.
Presque libéral.
Jean-Marc, qu'est-ce que vous dites là?
Presque libéral. Non, moi j'ai trouvé que l'hommage et l'appel à la responsabilité lancé par le président de la République ce matin est intéressant, et je me souvenais de ce qui s'est passé par exemple pour arrêter la négociation chômage entre les syndicats. Ouais. Il fallait absolument passer aux actes, et qui n'a pas été un chaud partisan pendant tout son mandat de la négociation paritaire qui est quand même la base de notre système social.
Leonidas.
Je trouve
c'est vulgaire,
que...
hein, ce qu'il fait le président de la République.
Non, mais c'est vulgaire. Et très sincèrement, avant les JO, le président de la République essaie de mobiliser l'équipe de France pour que, quelque part, on soit unis dans cet événement et qu'on ait trois mois, quelque part, pour montrer la France au reste du monde. Enfin, il est dans un rôle qui est totalement naturel. J'aime beaucoup l'idée que l'on puisse adresser un message de confiance aux syndicats sur le fait qu'ils n'iront pas jouer la politique du pire. Je ne vois pas très très bien ce qu'ils auraient à y gagner.
Ouais.
Je vois à peu près ce qu'elle peut être la stratégie d'avant. Mais
tous les
que...
syndicats n'ont pas déposé de préavis de grève pour l'instant. Juste la CGT et Force Ouvrière, ni la CFDT, ni les autres.
De toute façon, sans préavis, ça fonctionne déjà tellement mal que...
Non, mais
c'est vrai. Enfin, comment peut-on imaginer que les syndicats et les salariés aient envie de mettre à mal l'image de la France face à la communauté internationale?
Enfin, je ne veux pas penser ça.
Ils mettent
à
mal leur propre image.
Ben oui, bien sûr. Oui, leur propre image, évidemment.
Alors, leur image, c'est pas très grave. Ils sont habitués. Bon, le problème, c'est que dans un certain nombre de secteurs, il y a des difficultés et ça peut être l'occasion, sur des points précis, d'avancer. Regardez le problème des transports. Il y a un manque cruel d'agents actuellement à la RATP, dans les bus et dans le métro, ben voilà, il ne serait pas choquant que, peu avant les JO, les négociations s'engagent sur ce sujet.
C'est vrai que la démonstration, non, là, sur les transports...
Je pense que ça va être une énorme fête, et en particulier pour les jeunes, c'est-à-dire les ados, qui sont dans des clubs de sport, hein, dans province, partout, et qui, grâce à leur club de sport, peuvent obtenir un certain nombre de places pour pouvoir assister aux Jeux Olympiques, chose qu'on aura du mal, nous, à obtenir. Et beaucoup de ces clubs de sport sont ou parrainés, ou sponsorisés, ou financés par des syndicats, et notamment la CGT.
Voilà, elle est une grande fête, J-100.
Donc ça va grogner.
C'est un beau moment, si on veut bien le regarder.
Terminé, hein.
Ça va grogner quand même.
Sincèrement, l'idée que la France, qui est quand même un lieu où on se chamaille, où on bataille un peu tous les jours, se réunisse et donne l'image d'une équipe, c'est quand même ce qu'on a envie de voir.
Il faut rappeler qu'on est la cinquième puissance du monde, et qu'on peut se payer... des jeux qui vont nous coûter 10 milliards, contrairement
à pas de chiffrage
qui vont rapporter beaucoup plus en face.
Contrairement au bruit qu'on entend disant c'est épouvantable, on n'a pas 10 milliards à gâcher, il faut dire ben si, on a 10 milliards à gâcher parce que c'est un investissement important.
Non, mais ça coûte, mais ça rapporte aussi.
C'est ce que vous voyez.
C'est un investissement.
On a 10 milliards à dépenser, si vous préférez.
Henri Sardinien qui était emporté par son verre.
D'abord parce que effectivement ça rehausse notre prestige international. On va avoir des retombées et puis ensuite
et puis ça booste notre économie.
On est la cinquième puissance du monde et de temps en temps il faut le répéter.
Il n'y a pas eu beaucoup de jeux très rentables
ensemble. Et vous voyez, on est même fiers ensemble. Vous voyez à quel point c'est dans la boîte.
C'est dommage que les agences de notation ne se prononcent pas après les jeux. Ça se trouve, ça serait bien passé. Ça aurait fait une bonne image. C'est comme ça. 19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
19h37 sur BFM Business, la dernière partie des experts du soir. Léonidas Kalogeropoulos, Nathalie Janson, Jean-Marc Silvestre et Henri Sterdignac vont répondre à cette question. Faut-il simplifier le bulletin de salaire, puisque c'est la piste qui est en train de creuser le gouvernement, que ce soit dans le public comme dans le privé. Bruno Le Maire veut l'inclure au projet de loi sur la simplification administrative qu'il va présenter la semaine prochaine, Guillaume, en Conseil des ministres.
Alors oui, ça va faire 20-30 ans qu'on en parle. Il y a 55 lignes à peu près à l'heure actuelle sur la feuille de paye, et là l'étude d'impact du gouvernement, c'est de dire on descend de 55 à 30. Qu'est-ce que vous me dites? Oui, non ou on s'en fiche? Il n'y a pas de sujet finalement. Je sais pas,
vous êtes... Non, mais qu'on le fasse si derrière la simplification, enfin ce qu'on attend de la simplification, c'est qu'il y a un meilleur accès des citoyens à leur cadre administratif et juridique, que l'on ait derrière des administrations qui soient plus économes. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une sorte d'étude d'impact de ce que cette simplification va entraîner comme économie. On veut une simplification parce qu'on veut des économies derrière, donc qu'elle soit plus lisible. Ensuite, si elle est plus lisible et qu'on a moins d'informations, il faut qu'on aille trouver des informations ailleurs.
C'est intéressant ça, parce que en fait, est-ce que ça pose la question de dire que simplifier la fiche de paye sans simplifier la nébuleuse qu'il y a derrière, ça ne sert à rien?
Moi, c'est un peu mon avis, c'est-à-dire que ok, il y a plein de lignes, mais il y a plein de lignes parce que justement notre système est hyper complexe. Donc si on me la simplifie, mais du coup je sais encore moins
qu'est-ce qu'il y a comme complexité derrière,
je ne suis pas certaine que on est beaucoup avancé. Voilà. En fait,
on
précise quand même que les salariés pourront avoir accès aux informations complémentaires en le demandant.
Déjà, vous regardez. Enfin, les rares fois où vous avez pu vous pencher sur une feuille de paye, elle vous fait plutôt peur.
Ça donc, c'est
pas même accès. Voilà. Donc la simplifier. Moi, j'aurais préféré
qu'on simplifie ce qu'il y a derrière.
Voilà. Qu'on simplifie. Qu'on arrive à faire de la pédagogie pour que le salarié comprenne sa fiche de paye. Voilà.
Donc, je pense que je pense que d'abord il faut simplifier le système. On a un système qui est d'une complexité absurde. Par exemple, on paye la CSG, mais il y a une partie qui est imposable et l'autre
qui l'est pas.
Qui l'est pas, c'est complètement saugrenu.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
On
fait tout imposable ou tout.
Ça n'a aucune importance. On peut faire l'un ou l'autre, et puis ensuite on ajuste au niveau de l'IR. C'est faisable. On a au niveau des retraites complémentaires, on a des lignes qui sont dues au fait que le patronat veut une ligne supplémentaire. Pour bien c'est montrer vrai. Qu'il n'était pas d'accord avec la réduction de l'âge de la retraite qui maintenant est complètement périmée. Tout ça, il faudrait réfléchir à avoir un système plus simple. Et par ailleurs, on peut pas, de mon point de vue, la simplification est dangereuse si on mélange des cotisations qui donnent des droits, parce que la retraite est... les cotisations retraite et les cotisations chômage, ça donne des droits. Et puis, il y a des cotisations qui, en fait, sont
oui,
des
c'est impôts vrai, mais c'est bien pour
qui
ça
donnent aucun droit.
C'est vrai.
Il faudrait bien séparer les
C'est vrai, mais c'est
deux.
Bien pour ça, Jean-Marc, qu'en juillet dernier, on a rajouté le net social.
Mais alors, le problème maintenant, ce qui complique encore la chose, c'est que quand vous avez votre bulletin de bête, de paye, vous avez ce que vous payez, ce que vous recevez, vous savez ce que vous devez déclarer. Et puis en plus, vous avez le net social. Donc personne ne sait comment il est calculé.
Et c'est vrai aussi que le net après impôt n'est pas égal au net fiscal. Non.
Ah bah, bien sûr.
C'est trop simple. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais enfin, tout ça est quand même très compliqué.
Mais Audrey donne une idée qu'il faut creuser. La simplicité, mon cher Henri, serait de confondre le net et le brut, de le mettre dans une seule pochette, dans une seule chiffre, et de distribuer
ça. Bruno Le Maire est sur le coup aussi.
De distribuer l'ensemble de cet argent au salarié, qui est un grand garçon, responsable, et qui achètera ses assurances en fonction de ses besoins.
Ça, il n'en est pas question, c'est la réforme libérale.
Même ceux qui s'annoncent comme libéraux, je suis sûr qu'il y en a d'autres que moi sur ce plateau, ils seront contre cette...
La
responsabilité d'un salarié, c'est aussi de choisir...
Exactement.
Tout le principe de l'assurance sociale, c'est qu'on ne laisse pas les gens choisir.
Pourquoi vous nous faites ce serment sur la nécessité de simplifier...
On s'affichera jamais.
Le grand principe, c'est qu'on laisse pas les gens choisir. Parce que les gens ne s'assureraient pas spontanément suffisamment pour l'assurance pour la vieillesse. Les gens ne s'assureraient pas suffisamment pour la maladie.
Vous aviez commencé le débat en disant que vous étiez d'accord sur tout.
Aux États-Unis, on est obligé d'avoir une assurance spéciale.
L'assurance automobile est obligatoire.
Oui, on l'a choisi.
Allez, on passe la balle. Allez-y.
Simplement, si la simplification permet d'avoir une meilleure pédagogie, très bien, mais l'objectif en matière de fiche de paye, me semble-t-il, ça doit être une bonne pédagogie, que l'on puisse regarder sa fiche de paye et sommairement comprendre ce que l'on paye, pourquoi et qu'est-ce que l'on a en échange.
Avec 30 lignes au lieu de 55, on y arrive beaucoup.
Quand j'entends quelqu'un
parler de pédagogie, j'ai compris qu'il ne veut pas le faire.
Parce que j'appelle de la simplification. Nathalie,
on a le droit d'expliquer aux gens quand même.
Nathalie,
on fait les choses.
Non. Une assurance automobile, elle est obligatoire.
Non, mais ça, on est d'accord.
Je suis désolé, elle est obligatoire.
Mais sur les 55 lignes, je ne suis pas persuadée que la majorité des Français comprennent tout.
On choisit son prescripteur comme on veut.
Oui, mais
on choisit
ses risques
comme on veut. C'est
un
autre débat. Laissez personne.
Nathalie Janson,
les gens sont incapables de choisir l'assurance vieillesse.
Alors, Nathalie, laissez Nathalie Janson.
Je pense que Jean-Marc n'a pas tort. On s'interdit en France à réfléchir à ce système de choix. On peut effectivement rendre obligatoire. On peut aussi rendre...
avoir un fonds de solidarité prévu dans les assurances. Oui. Elles peuvent aussi le prévoir pour effectivement
pour la base,
pour ceux qui n'ont pas choisi ce qu'il fallait. Pour voilà, il y a plein de choses avec des cahiers des charges qui peuvent être. Et du moment qu'effectivement il y a le choix entre différents systèmes qui proposent donc une concurrence, ce serait bien plus efficace.
Voilà, vous savez que la complémentaire maladie, ça coûte 5 fois plus cher en frais de gestion que la sécurité sociale.
C'est pas vrai. Vous n'êtes jamais allé dans un comité d'entreprise pour négocier les montants et les primes d'une complémentaire santé.
Oui. Vous n'avez jamais regardé le bilan des complémentaires santé par rapport à la sécurité.
Ok, alors attendez, on s'émancipe du focus santé. Quand on se compare aux autres, en Allemagne, c'est 15 lignes, aux États-Unis c'est 14, au Japon c'est 11. On en est à 55.
Objectivement,
non, mais il y a un sujet de comparaison.
Non, mais la complexité de notre fiche de paye, elle est due à la complexité de ce qu'il y a derrière.
Mais voilà, exactement. Donc, le système fiscal, le système social aussi.
Le papier, sans simplifier ce qu'il y a derrière,
ça ne sert à rien. Parce que parfois, on a deux lignes pour le même prélèvement, parce qu'on a deux administrations.
Et on a deux administrations. Mais je pense que, voilà, ça a été très bien dit. Il faut absolument simplifier ce qu'il y a derrière.
Dans les autres pays, les gens doivent souscrire à des assurances privées et là aussi ils ont des lignes supplémentaires.
Oui, pardonnez-moi, ils ont des lignes supplémentaires de précarité. On a une capacité à fabriquer.
On pourrait réduire effectivement.
Quand même,
pourrait réduire le nombre de lignes. Ça signifie pas qu'on mettrait en cause le système.
Allez, on avance.
Bruno Le Maire a sûrement des idées.
Mais Bruno Le Maire est surtout.
Il a même sorti un livre.
Voilà. Bien.
Ce sera le prochain.
Demain. Projetons-nous demain.
Oui.
Journée agitée chez Stellantis. Ce jour, l'Assemblée Générale des Actionnaires, c'est que des actionnaires vont devoir statuer. Alors, vote consultatif, bien sûr, sur la rémunération de Carlos Tavares, qui fait dégâts puisqu'elle pourrait atteindre jusqu'à 36,5 millions d'euros sur l'année 2023, Audrey. Hein.
Oui, alors c'est trop, beaucoup trop, même estime trois sociétés de conseil aux actionnaires qui appellent clairement à voter contre demain, dont le groupe Proxinvest, et c'est son directeur général Charles Pinel qui nous a expliqué pourquoi il disait non. Il était sur BFM Business ce matin, écoutez.
Par les rémunérations des dirigeants du CAC 40 entre autres, la médiane elle est à 5 millions. Donc, vous voyez, avec nos calculs, il est très très au-dessus. Au niveau européen, on compare également par rapport au secteur industriel, donc par rapport au secteur automobile et aux équipementiers automobiles. Et de la même façon, il est sensiblement au-dessus puisque on est dans un rapport de 1 à 3, 3,5 fois. Aux États-Unis, les montants sont bien plus élevés. En moyenne, on est à peu près à 15 millions de dollars. Donc, vous voyez, par rapport aux 5 millions que je vous indiquais pour le CAC 40. Donc, on est à un rapport de 1 à 3. Et effectivement, Stellantis argumente, depuis le rapprochement entre Fiat et Peugeot, que 48% de leur chiffre d'affaires est aux États-Unis. Donc ça s'entend. Après, pour moi, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut faire des sociétés qui sont quand même européennes, hein. Stellantis, il est de droit néerlandais. C'est une société de droit néerlandais. Est-ce qu'on veut importer en Europe les pratiques américaines?
Non, mais la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que le montant qu'il perçoit correspond à ce qu'il a rapporté à l'entreprise? Quand Carlos Tavares reprend les rênes de Stellantis, enfin, il sauve l'entreprise, il la restructure.
Moi, je n'ai rien à dire à un homme qui a sauvé une entreprise qui était au bord du gouffre. Enfin, la réalité de ce qui s'est passé chez Peugeot, personne n'aurait mis un euro le récit de l'histoire.
Il y a seulement 10 ans.
Ouais. Et on se souvient tous qu'on se demandait si on allait perdre l'un de nos constructeurs automobiles. Ce qu'il a fait pour Peugeot, ce qu'il a restructuré, les entreprises qu'il a incorporées et la dynamique mondiale qu'il leur a apportée, fait que personnellement, je ne vois pas comment on peut prendre un benchmark pour aller trouver, j'allais dire, le marché des Carlos Tavares. Il n'y a pas de marché, ce sont des cas vraiment uniques. Je pense que globalement, sur la planète, il doit y en avoir 20.
D'accord, Nathalie.
Tout à fait. De toute façon, je souscris totalement. D'ailleurs, je pense qu'il peut remercier l'ego de Carlos Ghosn, parce que Carlos Ghosn n'avait pas eu un tel ego, il serait sans doute resté chez Renault. Je ne sais pas s'il aurait fait la même trajectoire. Ouais. Donc, il peut quand même lui remercier beaucoup pour cette erreur de jugement, puisque du coup, il a brillé ailleurs. Et je partage tout à fait. Je pense que on n'est pas sur un marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent. C'est des personnalités face à des situations particulières, et effectivement on peut peut-être dire que c'est trop, mais on n'a pas des talons.
L'important, c'est que ce sont des montants plus élevés que même certains géants américains.
Mais la tâche a été aussi assez. La probabilité qu'il réussisse était quand même relativement.
Alors Henri Sterdyniak, évidemment, ne va pas être d'accord avec vous, mais Henri, je rappelle quand même que Stellantis en 2023, c'est 18,6 milliards de bénéfices. C'est plus que les 15 milliards de LVMH et c'est juste en dessous de Total Energy. C'est colossal.
Quelle importance a pour moi le partage des profits entre les actionnaires et puis les gens à leur solde. Je m'en fous, c'est pas mon problème.
Alors,
vous voyez, il faut quand même, oui, à leur solde, il faut quand même être sérieux. Le problème, c'est pourquoi ce type demande une somme pareille qui visiblement
parce que son conseil d'administration lui a
dit qu'il y a des objectifs
choque
parce
ses salariés, que le conseil d'administration au lieu d'être plus modeste et de renforcer comme ça l'esprit de la boîte. Qu'est-ce qu'il veut montrer en réclamant une somme pareille ?
Non, mais attendez. D'un côté,
bon, on peut dire, ok, c'est, disons, c'est pour montrer, c'est de l'esbrouf, quoi, pour montrer qu'effectivement, il est quelqu'un de prodigieux, et donc, effectivement, son entreprise, elle est prodigieuse. Bon.
Non, mais attendez. Non, mais il y a plusieurs éléments qui sont liés à sa rémunération, Henri, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est 100% fixe. Mais il y a une partie de variable qui est liée aux objectifs, qui est liée à la mise en place du plan de transformation,
des actions, des retraites. Qui fixe.
C'est pour ça qu'on parle d'une
ses objectifs.
C'est pour ça qu'on parle d'une rémunération qui pourrait aller jusqu'à 36.
Oui, mais il fixe ses objectifs.
Jean-Marc, mérité ou pas?
Je dis. Voilà, le problème c'est est-ce qu'effectivement l'entreprise elle est gérée dans l'intérêt de la société ? Est-ce que les choix qui ont été faits en matière de voitures relativement chères, est-ce que c'est les bons choix qui correspondent au contrat technologique ?
Apparemment oui, vu les profits, les volumes de, et je précise ventes, aussi, parce que c'est un beau sujet de prédilection, hein, oui, la priorité absolue du groupe, ça reste aussi l'actionnariat salarié.
Jean-Marc.
Oui, je pense pas qu'on puisse reprocher à Carlos Tavares le défaut de faire de l'esbrouf et d'avoir un ego surdimensionné par rapport à d'autres PDG. Il est quand même relativement modeste de ce point de vue-là. Je crois que le débat va tourner en rond, il va déraper sur le plan politique vraisemblablement. Faut dire que Stellantis respecte totalement les règles qui ont été fixées par le code de gouvernance d'entreprise, que ce soit le COB AFEP ou même la loi Sapin, et que donc il a demandé une autorisation au départ et ensuite il se fait contrôler à la fin l'Assemblée Générale suivante. Donc, alors ça effectivement, comme son problème, le problème, les critères qu'ils utilisent pour établir ce salaire, le conseil d'administration et le management est très américain. Sont très américains. Les comparaisons sont très américains. Parce que c'est une boîte américaine.
Oui, c'est une boîte
parce
américaine.
Que c'est une boîte internationale.
Mais je
vous fais
remarquer
parce qu'il fait 50% de son chiffre d'affaires et sans doute les deux tiers de ses profits en dehors de la France.
Et sa rémunération est très loin derrière les grandes rémunérations des dirigeants américains.
Les gens qui protestent, c'est pas la CGT. Hein. Les gens qui protestent, c'est des fonds de pension, des fonds financiers qui vont faire voter demain le refus de ce salaire.
Ah bah on verra, on verra demain.
C'est un vote consultatif.
Mais on verra, il y a un message.
Être refusé, mais comme c'est consultatif, ça n'a aucune importance. Je veux dire, le tout, c'est de savoir est-ce que ça fait bien dans le tableau ou pas.
Il faut s'arrêter là.
Du point de vue des investisseurs financiers.
Allez, on se laisse du temps pour l'extra-time.
Juste avant, 45 secondes, juste avant l'extra-time, Denis avait un mot à nous dire. 45 secondes, on est court, malheureusement.
Non, je vais le prendre dans mon extra-time.
Sur nos données sensibles. Ok, d'accord, alors, on l'extra-time.
Oui, je veux bien.
C'est parti pour le coup de cœur.
Alors, l'extra-time.
Alors, c'est pas un coup de cœur en l'occurrence, et pourtant, j'aime bien faire des coups de cœur, mais. Je dirige une association qui s'appelle l'Open Internet Project, qui réunit des acteurs du numérique européen, qui travaillent sur les questions de souveraineté. Et c'est quand même très choquant qu'aujourd'hui même, c'est pour ça que je voulais vous en parler, la Commission européenne étudie le programme EUCS, qui est les normes sur la sécurité, la cybersécurité pour nos données. Et alors que les États-Unis ont tout fait pour que leurs données soient sanctuarisées, et qu'en revanche, ils puissent avoir accès à nos données avec l'extraterritorialité de leurs règles, eh bien, nous avons totalement capitulé. Le texte qui est étudié aujourd'hui a totalement retiré toute exigence de souveraineté sur nos données. C'est quelque chose qui est phénoménal, c'est une asymétrie totale, et j'ose espérer que ce qui sortira des arbitrages finaux ne sera pas aussi déséquilibré que ce qui a été regardé aujourd'hui.
Voilà le coup de gueule ce soir de Léonidas. Nathalie, est-ce que vous voulez poursuivre les 30 secondes?
C'est à vous. Alors, bah, moi aussi, c'est un coup de gueule. C'était suite au Salon du Livre, cette idée saugrenue d'Emmanuel Macron sur la taxe sur le livre d'occasion pour ne pas compromettre le prix unique du livre. Alors là, effectivement, les bras nous ont... Enfin, je pense que les bras en sont tombés à beaucoup, puisqu'on se dit, mais alors, d'un livre d'occasion, c'est du recyclage, c'est plutôt bien. Alors, on nous dit que c'est bien de recycler, mais là, c'est pas bien de recycler, parce qu'il y a un prix unique. Enfin bon, bref, on s'y perd. Et c'est vrai que parfois, on se dit que franchement, il a un problème avec la compréhension de l'économie de base.
Eh bien ça, c'est dit. Henri Sterdignac, pour poursuivre.
Pour une fois, je vais faire un coup de chapeau.
Ah.
Pour une fois, vous savez que d'habitude, lorsqu'il y a des travaux, il y a un nombre relativement important d'accidents du travail. En France, dans le BTP, il y a un mort par accident du travail tous les trois jours. Et là, on a fait des travaux très importants pour les JO. On a mis en place une charte sociale qui a été signée par les syndicats et par les entreprises. Cette charte prévoit des mesures de formation des nouveaux salariés, des mesures de lutte contre le... contre la sous-traitance, contre les travailleurs non déclarés. Et grâce à ça, on a eu 4 fois moins d'accidents du travail que dans un chantier normal. Et il faut quand même saluer ce résultat.
Mais vous êtes très positif ce soir, Henri. On n'est pas habitué.
Ça veut dire que si effectivement on met les mêmes pratiques dans l'ensemble des chantiers, on réussira quand même à avoir 100 morts de moins en accident de travail.
Jean-Marc,
30 secondes. J'en avais 3 à coup de cœur.
Ah oui, mais il faut choisir.
Ça va faire un peu provocant. Je pensais à l'anniversaire de Bruno Le Maire.
Oui.
Il est à l'âge où on prend des grandes décisions.
Il a 50.
Donc, coup de cœur, mais je l'ai fait déjà la semaine dernière. Benjamin Smith, c'est le PDG de Air France KLM. Il gagne 10 fois moins que Carlos Tavares.
Ouais.
Et il a pourtant une assemblée générale qui va se dérouler dans 3 semaines, un mois à peu près, qui va être également chahutée parce qu'on lui reproche aussi de gagner un peu trop d'argent.
Enfin, il a des résultats un peu moins spectaculaires.
Il a des résultats qui sont très bons. Il a redressé.
Oui, il a redressé.
Mais je voulais terminer par un hommage à Gustave Eiffel. Ces Jeux Olympiques, ça va mettre en image et en lumière l'œuvre de Gustave Eiffel. On a déjà commencé ce matin par l'interview du président de la République sous la grande halle.
Eh bien, voilà.
Bah voilà pour vos coups de cœur et coups de gueule ce soir. Merci à tous les 4, Nathalie Janson, Léonidas Kallogiropoulos, Henri Sterdignac et Jean-Marc Sylvestre. Merci à tous les 4. À très vite pour nouvelles aventures. 19h55, c'est fini. Ça a été trop.
Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ceci dit, le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est sur toutes les plateformes et sur le site internet bfm.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
Bah, bien sûr qu'on se retrouve demain soir, 18h-20h, en direct pour nouvelles aventures. Dans un instant, Tekken Co. François Sorel et toutes ses équipes. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.